Toi, mon Dieu, monte un chant d'amour et de joie immense. Je te bénirai en tout temps pour tes éternelles bontés et pour tes nombreux bienfaits et pour tous les jours que tu m'as donnés. Je te dis merci, toujours et même dans l'éternité. Je te dirai merci. C'est toi, mon Dieu, qui créa la terre et aussi le ciel. Tu les as remplis de merveilles. Pour tes éternelles bontés et pour tes nombreux bienfaits et pour tous les jours que tu m'as donnés, je te dis merci, toujours et même dans l'éternité, je te dirai merci. Et toi, mon Dieu, tu n'as pour nous que des projets de paix et tu ne veux que le meilleur. Pour tes éternelles bontés et pour tes nombreux bienfaits et pour tous les jours que tu m'as donnés, je te dis merci, toujours et même
ce soir. Je vois que beaucoup ont bronzé dans les travaux, entre autres. Ça commence à devenir joli, hein? Bravo, bravo. Francis me disait tout à l'heure ce qu'il y a d'agréable. Voilà, on voit tout de suite la différence. Et c'est vrai avec ce que Franck, Sandrine et Francis font là. C'est formidable, on voit la différence rapidement. C'est vraiment bien. Je voudrais qu'on lise ce soir Apocalypse chapitre 6, verset 6. Voilà. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait : une mesure de blé pour un denier et trois mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Amen. Asseyez-vous. Il y a des pierres précieuses, des révélations, parce que la pierre, on sait que dans la Bible, une pierre, c'est une révélation. Il y a des pierres sur lesquelles le soleil de justice n'a pas encore brillé, ou très peu, dans les nations. Et ces vérités, elles doivent être révélées, elles doivent être, en tout cas, au moins, rétablies et vécues selon l'esprit de vérité. Parce que il faut pas seulement qu'elle soit enseignée comme ça, mais il faut que ça se transforme en vécu. Avant que Jésus n'enlève son épouse, beaucoup de gens vivent dans la confusion parce qu'ils ne vivent pas ces choses, parce qu'ils ne savent pas ces choses. Et je pense que ce soir, ça va vous aider à savoir pourquoi certaines choses arrivent. Vendredi passé, je vous parlais donc de la coupe que nous prenons lors de la Sainte Cène. Et je vous disais que elle est notre croix. Nous communions avec Jésus en sa mort. Nous commémorons cela, la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il revienne, sa résurrection aussi, bien sûr. Alors il y a le vin, et là nous venons de lire que le diable ne peut pas toucher, n'a pas le droit de toucher au vin. Qu'est-ce que c'est le vin? Eh bien le vin, c'est l'ivresse, c'est l'inspiration de l'esprit, c'est l'inspiration que donne l'amour de Dieu dans une vie. Vous voyez, quand je suis venu au monde, quand vous êtes venus au monde, la plupart d'entre vous, enfin ceux qui ont les cheveux un peu blancs comme moi, Eh bien, quand nous sommes venus au monde, les gens de mon âge, en tout cas, nous avons vécu dans l'époque décrite sous le troisième sceau d'Apocalypse. Il y a quatre sceaux qui sont ouverts et nous étions dans les années 50, 60, sous le troisième sceau. En 77, ça a changé. En 77, le quatrième sceau était brisé et nous sommes en train de vivre la prophétie qui se trouve écrite sous le quatrième sceau. Hein, vous savez ces choses. Mais je le dis parce que il faut que vous sachiez que ce qui était dit sous le troisième sceau, ce qui était annoncé, eh bien, est encore valable aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un processus qui est en marche. On en est encore là. Là, vous avez vu, tout est mesuré, ça parle de crise, ça parle de monnaie, ça parle d'argent, ça parle du diable qui est en train de faire ruiner les nations, vous avez vu ça. Mais le vin et l'huile, il n'a pas le droit de toucher. L'ennemi n'a pas le droit de faire du mal à l'huile et au vin. L'huile, qu'est-ce que c'est? C'est notre portion, c'est la portion de l'esprit dont nous avons besoin pour être éclairés lorsque la voix criera, l'époux vient, lorsque Jésus reviendra, nous aurons besoin d'avoir une huile fraîche. Et c'est cette réserve. Le diable ne peut pas toucher à ça. Il n'a pas le droit de toucher à cette portion de l'esprit. Je vous rappelle que l'esprit de prophétie, c'est la parole. La lumière est toujours là, l'huile, notre portion, notre onction, elle est intacte parce que l'ennemi n'a pas le droit d'y toucher. Il peut toucher notre chair, il ne peut pas toucher l'onction. Il peut nous martyriser, mais il ne peut pas toucher cette onction. Il ne peut pas. Et le vin représente l'ivresse que donne cet esprit. L'ivresse que donne l'esprit lorsque nous entrons dans les choses de l'esprit. Vous savez, vous rappelez le jour de la Pentecôte, le jour de la première Pentecôte à Jérusalem, les disciples sont sortis de la chambre haute et les gens ont dit, mais parole, ils sont déjà bourrés, c'est même pas... Ils croyaient qu'ils étaient ivres. Ils avaient l'air ivres. C'est de l'ivresse de l'esprit. Le diable n'a pas le droit de toucher à cela. Il peut imiter, il peut faire toutes sortes de choses, mais il ne peut pas faire de mal à la réelle onction de l'esprit qui se trouve sur ceux qui cherchent et qui ont trouvé. Il n'a pas le droit de toucher à cette ivresse, à cette joie qu'on ressent quand nous sommes inspirés par l'amour. Parce que quand je dis que on est inspiré par Dieu, inspiré par le Saint-Esprit, il faut toujours se rappeler que Dieu est, il est, c'est son état, amour. Ça veut dire que lorsqu'on est inspiré par Dieu, on est inspiré par l'amour. Hein, quand on n'est pas inspiré par l'amour, on sait par qui on est inspiré. D'accord? C'est clair. Jésus nous a engagés à boire aussi cette coupe-là. Pas seulement la coupe qui commémore la mort de Jésus et aussi la nôtre, mais aussi cette coupe de vin, cette coupe d'ivresse. Dieu est amour, et le plan d'amour, le plan de Dieu, il est de transformer les pécheurs. Et l'apôtre Paul dit, souvenez-vous que vous étiez des pécheurs comme eux, comme ceux du dehors, vous étiez dans les ténèbres, vous étiez dans le péché. Maintenant, il trouve étrange que vous ne vous vautriez plus dans ces choses-là, mais vous y étiez autrefois, rappelez-vous de ça. Et puis, Dieu nous a commencé une transformation en nous. Et pour nous transformer, il y a toutes sortes de façons. Mais il agit comme un papa, il agit comme dans une famille normale. Et quand un enfant fait une bêtise, qu'est-ce que les parents font? Ils corrigent. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils ne pardonnent pas. Bien sûr qu'ils pardonnent, mais ils corrigent. Et le châtiment est utilisé par Dieu, même avec nous qui sommes des vieux, hein, on est quand même des enfants du Seigneur, nous avons besoin d'être corrigés. Il dit dans Apocalypse 3, 19, « Je reprends et je châtie ceux que j'aime. » Alors, certaines personnes chrétiennes vivent leur châtiment ici-bas. C'est bien, on doit y passer. Et puis d'autres vont vivre des châtiments après leur mort, des chrétiens. On va lire Luc 12, 43, 48, s'il vous plaît. Luc 12, 43, 48. Si je le trouve. Voilà. Heureux ce serviteur. Ah ben d'abord, on peut lire un peu avant. Quel est cet économe fidèle et prudent que le maître établit sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable, ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi, il est heureux. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, « Oh, mon maître tarde à venir », et qu'il se met à battre ses serviteurs, ses servantes, à manger, à boire, à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, et il le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec les infidèles. C'est terrible, hein ? C'est terrible. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, il sera battu d'un grand nombre de coups. C'est terrible, hein ? Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui on a beaucoup donné, et on exigera davantage à celui à qui on a beaucoup confié. La part des infidèles, bon, ben, quand ils meurent, ben, c'est déjà un coup terrible de voir qu'ils sont encore vivants, mais dans une autre sphère, c'est déjà un coup. Mais pour le chrétien qui ne marche pas correctement, et surtout pour les serviteurs de Dieu, eh bien, ils vont prendre des coups, ceux qui n'auront pas fait attention et qui auront dit, bon, ben, le Seigneur tarde, Hein? Et puis ils vont se prendre des coups. Mais je pense aussi que les chrétiens, pas seulement les serviteurs de Dieu, mais les chrétiens, il y en a qui vont, après leur mort, prendre des coups aussi. Jésus parle ici des siens, de ceux qu'il s'est choisis. Et quand il reviendra, il dit, quand il reviendra, il les châtiera. On peut lire aussi Matthieu 5, 26. Dans Matthieu 5, 26, il est dit... accorde-toi promptement avec ton adversaire. Jésus parle à nous, il ne parle pas à ceux qui ne s'intéressent pas, hein, il nous parle à nous. Accorde-toi donc promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Tout, vous vous rappelez, j'avais fait une prédication, il n'y a pas de repas gratuit, tout se paye. Tout se paye. Vous faites une bêtise, c'est vrai, Dieu vous pardonne, mais il va vous chicoter. Ça, c'est comme ça. C'est obligé. Dieu pardonne, oui, mais il châtie ceux qu'il aime. C'est vrai. Et pourquoi ? Eh bien, c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que si la punition ici-bas, ou après la mort, était légère, si cette punition était insuffisante pour réformer, pour transformer le pécheur, pour qu'il ait une âme contrite et qu'il soit dans une position de soumission et d'amour de la vérité, abandonnant toutes les mauvaises choses pour lesquelles il mérite des claques, eh bien, le paradis de ce chrétien-là serait un enfer. Parce que, mes frères et sœurs, l'épreuve, le châtiment nous purifie. Comme l'or est purifié, et l'or il est purifié où ? Dans le feu. Dieu châtie ceux qu'il aime, il châtie pas les bâtards, il châtie ceux qu'il aime. C'est donc pour nous corriger, pas parce qu'il prend un malin plaisir, mais c'est pour nous corriger, pour nous rendre meilleurs, que Dieu nous corrige. Je voudrais vous lire dans la version Parole vivante de la Bible, chapitre 12, verset 7. Écoutez bien. Enfin, on peut déjà lire même un peu avant. Auriez-vous, au verset 5, oublié cette parole d'encouragement qui s'adresse à vous en tant que fils de Dieu ? Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur prend sous sa discipline celui qu'il aime. Il corrige tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Les corrections que vous avez à endurer servent à votre éducation. Elles prouvent que Dieu vous traite en fils. Quel est le fils que son père ne corrige pas ? Si vous étiez dispensé de la correction qui est le lot de tous les vrais fils, vous ne seriez pas des enfants légitimes, mais des bâtards. C'est dans la Bible. Terrible, n'est-ce pas ? C'est terrible, c'est comme ça que ça se passe. Et ceux qui ne connaissent pas la pureté par l'expérience de la purification, parce qu'on n'aime pas la pureté si on n'a pas été corrigé. On aime le mal. On est toujours attiré vers le bas. On est toujours attiré vers la facilité, vers le mal. On a besoin d'être corrigé, d'être remis dans le bon chemin, là où il faut. on a besoin d'être corrigé, et celui qui ne connaît pas la pureté par l'expérience de la purification, c'est-à-dire de la correction, eh bien, il ne se trouvera pas du tout bien dans la félicité de la présence de Jésus, dans sa présence sainte, dans la totale vérité et dans un amour parfait et éternel. Ça va lui casser les pieds. Il va supplier Dieu de l'envoyer en enfer. Là, peut-être j'exagère un peu. Mais ça va être très difficile. Vous croyez-vous que quand on meurt, tout d'un coup, pouf, on devient hyper parfait en une seconde? Non, mes frères et sœurs, non. Quand on meurt, on ne fait que de changer de sphère. Et c'est pas parce que vous changez de sphère que miraculeusement, d'un coup de baguette magique, vous allez aimer soudain la pureté, la vérité, l'amour vrai, la sainteté et toute cette sorte de choses. Non, monsieur. Quand vous allez quitter votre corps, vous serez la même personne que vous êtes maintenant. On aime les choses sacrées parce qu'on est transformé par la correction. Vous comprenez maintenant pourquoi? Alors vous voyez, je parlais d'autre jour, enfin c'est tout le thème de mes prédications ces derniers temps, on s'est interrompu dimanche parce qu'on a eu le frère Soma qui est venu, mais la lignée de la pensée que le Seigneur est en train de donner à l'Église ici, et aussi sur le net, c'est qu'il y a une science. Hein, si vous connaissez toute la science des mystères de Dieu, des secrets des mystères de Dieu, et puis que vous n'avez pas l'amour, ça sert à rien. Mais il y a une science qu'il faut connaître, et ça fait partie de cette science. Cette science révélée dans les Écritures, elle révèle la nécessité absolue d'avoir suffisamment, excusez-moi, mais c'est comme ça, elle révèle la nécessité d'avoir suffisamment souffert, soit avant la mort, soit après la mort. Mais de toute façon, il va falloir payer. Il va falloir être corrigé. Elle révèle, cette science-là, la nécessité d'avoir suffisamment souffert pour éteindre l'amour du mal, l'amour du péché qui est en tout être humain. Nous sommes tous comme ça, tous. Que celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre. Et si on pêche, c'est parce qu'on aime bien ça. C'est vrai, il ne faut pas se... Et si Dieu ne châtiait pas, S'il nous remettait les peines encourues à cause de nos péchés comme ça, facilement, eh bien, ça serait pardonner l'erreur. Et Dieu n'est pas comme ça du tout. Il y a trop de bébés spirituels dans les églises qui croient que Jésus a porté leurs péchés à la croix. Ils ont raison, mais en partie. Il s'en est chargé afin que nous puissions avoir accès à la présence de Dieu. Ça, on ne pouvait pas avant. Mais Dieu veut, une fois qu'on a eu le libre accès, une fois qu'on s'est repenti, une fois que nos péchés sont effacés, eh bien, nous avons libre accès à son trône, et là, il commence à nous corriger, à nous transformer, à nous purifier, et pour cela, il a recours à la bonne vieille fessée, au châtiment. Alors j'entends déjà d'ici d'autres, des gens qui vont me dire « Mais la parole de Dieu dit qu'il s'est chargé de notre châtiment. » Ésaïe chapitre 53. Alors je redis ça un peu autrement. Oui, il s'est vraiment chargé de notre châtiment, c'est vrai. Alors pourquoi, Michel, veux-tu que nous ayons des châtiments s'il s'est chargé de notre châtiment? Le châtiment que nous méritions à cause de nos péchés, c'était la mort. La séparation d'avec Dieu. Mais maintenant, Jésus s'étant chargé de ce châtiment-là, nous sommes passés de la mort à la vie, grâce à cette action qu'il a faite sur la croix, et Dieu châtie ceux qu'il aime. Voilà. C'est clair? C'est magnifique. C'est magnifique. Échapper à la punition n'est pas du tout conforme au gouvernement divin. Pas du tout. C'est par exemple si Lucas faisait des bêtises et qu'on lui pardonne à mesure, mais qu'il a jamais de punition, ça deviendrait un sale gamin. Mais merci Seigneur, il a des parents qui le corrigent, hein? Pas seulement lui, mais tous les enfants. Là, je prends Lucas comme ça parce qu'il m'a regardé avec des grands yeux. Mais tous, heureusement, moi je remercie Dieu d'avoir eu un père qui me foutait des fessées. Alors, hein, n'allez pas, si la police nous entend, ils vont dire, donne des fessées aux enfants, Non, il n'y a pas besoin ici. Il y a 30, 36 000 autres façons de punir les enfants que de les battre comme plâtre. Hein. Mais échapper à la punition n'est pas conforme au gouvernement divin. Parce que la justice, elle est la servante de la miséricorde de Dieu. Pensez-y. La justice, elle est la servante de la miséricorde de Dieu. Cette science-là, cette connaissance-là, elle n'est pas appréciée par ceux qui s'attachent à cette vie terrestre, c'est-à-dire à la façon, à l'esprit de ce monde actuel. Ce n'est pas apprécié du tout, parce que c'est vraiment moyenâgeux. Vous savez, Dieu ne nous châtie pas, en plus, selon la juste mesure, parce que déjà, on a échappé à la mort, parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Hein. L'âme, c'est l'être. L'être qui pêche, c'est celui qui mourra. Mais en plus, si Dieu devait nous châtier chaque fois qu'on bronche, chaque fois qu'on fait quelque chose de travers, mais on ne pourrait pas le supporter, la vie serait insupportable parce que on est des machines à faire des bêtises. Vous n'avez pas remarqué? Mais c'est effarant. L'autre jour, je regardais ce témoignage extraordinaire de cet homme, Nicky, là, qu'on a mis en première page de Révélation Bible, et il dit, je savais que j'étais un pécheur, mais qu'est-ce qu'il peut faire comme péché? Il n'a ni bras ni jambes. Eh bien, il trouve moyen de pécher. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, on entend Lucas qui vient, voilà, il a voulu se faire baptiser parce qu'il est content, il est conscient que Jésus est mort pour ses péchés. À son âge, on lui dit, mais quel péché il a fait ce gamin-là? Ben, on est tous des pécheurs. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais Dieu, heureusement, ne nous châtie pas selon nos péchés, on ne pourrait pas le supporter. Dans le psaume 103, verset 10, on va lire quelque chose qui est absolument magnifique. À ce sujet, et je voudrais que vous mesuriez la portée de ces choses, 103:10, il est dit, Dieu est lent à la colère, il est miséricordieux et compatissant, il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloignera de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. C'est rassurant. C'est rassurant. Dieu ne nous châtie pas selon la mesure de nos fautes. Alors, ne nous décourageons pas lorsque Dieu nous châtie, ça pourrait être plus fort. Ça pourrait être plus fort. Mais observons ce qui se passe. Regardons ce qui se passe. Analysons ce qui se passe. Et constatons que le péché entraîne toujours la souffrance. Toujours. Autant aujourd'hui au XXIe siècle qu'au Moyen-Âge. Autant aujourd'hui au XXIe siècle que du temps de Jésus ou du temps de Pharaon ou du temps d'Adam et Ève. Toujours la même chose. Vous vous rappelez les ados, quand vous étiez petits, je vous disais, si tu fais une bêtise, tu as la tristesse qui vient dans le cœur. Si tu fais quelque chose de bien, tu as la joie qui vient dans le cœur. Vous vous rappelez les ados? Enfin, ils ne sont plus ados, maintenant c'est des adultes. Vous vous rappelez? Hein? Ben voilà. Ça ne change pas. C'est toujours la même chose. On est fabriqué comme ça. Et en plus, on ne souffre pas que parce que nous avons péché. C'est pas parce que vous avez péché forcément que vous souffrez. Il n'y a pas que ça. L'histoire, elle abonde en récits de souffrance. Et on peut dire, j'ai lu quelque part, que le sang des martyrs, c'est la semence de l'Église. On ne souffre pas que parce qu'on a péché, mais parce que c'est nécessaire. Terrible. Il y a un évangile tronqué. Viens, Seigneur Jésus, tu auras la paix, la joie, le bonheur, la santé, l'abondance, la prospérité, l'air. Ça, c'est un évangile vrai, mais pas complet. C'est tronqué. Un évangile tronqué où la souffrance n'a pas sa place, c'est un évangile d'erreur. Il faut aller un peu plus loin quand même que la paix, la joie, le bonheur, la santé, la guérison, et puis toujours, à tous les coups, la prospérité. Non. Et l'erreur, mes frères et sœurs, elle ne tombe que devant l'épée de l'esprit. Voilà pourquoi on a mis une épée là. L'épée de l'esprit, c'est l'épée de la parole, c'est elle qui tranche.
il y a besoin de trancher tout le temps dans notre vie. Tout le temps, il y a besoin de trancher. Pas forcément parce qu'on est, on a péché, mais parce qu'on est humain. On est humain. On n'est pas divin. Dieu le s'en souvient. Mais on est en train de le devenir. Il est en train de nous débarrasser de ce qui n'est pas correct et de ce qui ne pourra pas rentrer dans le royaume de Dieu pour l'éternité. Alors, réjouissez-vous, mes frères et sœurs, d'être trouvés dignes de la souffrance que vous vivez et qui est selon Dieu. Réjouissez-vous d'être trouvé digne. Vous n'êtes pas des bâtards. Réjouissez-vous. On va lire Romains 12, 12 pour terminer, où il est dit « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, tout ça. » Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez, ne maudissez pas, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Vous voyez, quand vous êtes dans l'affliction, soyez patient, ça va s'arrêter, ça ne dure pas tout le temps. On pense que ça va durer tout le temps, mais non, ça ne va pas durer tout le temps, ça ne va pas durer tout le temps. On va lire un autre, dans Philippiens 4, 4, 9. Il est dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Jésus, je te prie de bénir ces paroles dans le cœur de chacun et chacune qui est ici, mais aussi de ceux qui écoutent ce message enregistré, et qui passe par une affliction, qui passe par une souffrance, c'est peut-être un châtiment, mais c'est peut-être simplement une correction, c'est peut-être simplement toi qui es en train d'émonder afin que cette personne porte plus de fruits. Seigneur, toutes ces souffrances, elles ont une raison. On ne connaît pas vraiment, parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend après la mort, on ne sait pas les merveilles qui nous attendent. On imagine un peu, mais on ne peut pas imaginer ce qui dépasse notre imagination. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, aide-nous à prendre par la foi ces choses, à les croire, parce qu'on n'a rien d'autre que ta parole pour pouvoir aller de l'avant. C'est une lumière qui n'éclaire pas bien loin, mais elle est suffisante pour pouvoir aller de l'avant. Et pas à pas, nous voulons aller de l'avant, te faisant confiance jour après jour, moment après moment, sachant que tu nous conduis là où c'est vraiment merveilleux. Et quand nous arriverons, nous serons remplis de reconnaissance d'avoir été traités comme des fils et des filles. Et nous te remercierons d'avoir été l'objet de temps en temps de châtiments, de corrections, ou alors simplement de cet émondage dont je parlais tout à l'heure. Merci Jésus de nous aider à comprendre cela et de nous permettre d'être persévérants tous, de ne pas nous décourager et d'aller de l'avant avec foi. Merci Jésus, nous comptons sur ton amour. La seule chose que nous pouvons savoir, c'est que nous savons vraiment, c'est que nous devons te faire confiance. Eh bien, nous te faisons confiance. On ne sait pas ce qui va nous arriver, mais on te fait confiance. Comme disait Nick dans son témoignage extraordinaire, eh bien, c'est la seule chose que nous avons, c'est de te faire confiance. Et Jésus, on sait, et je sais, depuis 1968, le jour où je t'ai rencontré, que tu ne m'as jamais menti, que tu ne m'as jamais trahi, que tu m'as toujours conduit et qu'aujourd'hui, eh bien, je suis là où je suis grâce à toi et je sais que tu vas m'emmener encore plus loin et je sais que tu feras la même chose pour tous ceux qui se confieront en toi. Que ton nom soit béni dans chacune des vies qui sont ici et qui sont aussi à l'écoute sur Internet. Au nom de Jésus-Christ, Amen.